Nous avons quatre intervenants pour cette table ronde. Je les cite, mais vous l'avez aussi dans le programme. Nous commençons par André Suarez, qui est un membre très actif et depuis son origine de la commission de la mémoire historique en Colombie, qui a beaucoup travaillé. Je me souviens avoir lu un travail sur Urabá qui a été fait, un épicentre de la violence il y a cela pas mal de temps. Donc André Suarez nous parlera de Paz Esquiva, polarisation politica y social dubitativa. Ensuite, Eduardo Pizarro, ancien ambassadeur de Colombie aux Pays-Bas, éminent violentologue, comme on dit en Colombie, et grand spécialiste des questions armées dans ce pays, nous parlera de las fuerzas militares, de opositores radicales, a actores fundamentales de la paz. Viendra ensuite Daniel Pecco. J'ai du mal à le présenter car nous le connaissons tous et il a été pour nous un guide, nous qui sommes un petit peu plus jeunes que lui, bien qu'on ne soit pas tout jeune du tout. Il a été quelqu'un qui nous a éclairés depuis toujours, puisque Daniel, ça fait au moins 5, ça fait 50 ans à peu près qu'il arpente la Colombie, qu'il la connaît dans toutes ses régions et qui nous éclaire de ses analyses les plus fines et souvent des analyses qui suscitent le débat, et c'est tout à fait nécessaire que ce soit, qui va nous parler de carence de la symbolique nationale, fragmentation des formes de pouvoir et lecture de la temporalité dans le contexte des phénomènes de violence en Colombie. Ce serait un sujet, ce serait un titre de thèse, on le trouverait un petit peu long, mais là il nous éclaire bien sur le contenu de cette présentation. Et enfin, Jean-Marc Laforêt, ancien ambassadeur de France en Colombie, il a quitté, je crois, son poste en juin ou juillet, je ne sais pas, donc qui a été à ce poste-là un observateur évidemment attentif et bien informé du processus de paix, et qui, avant d'être en Colombie, a été ambassadeur au Venezuela, ce qui n'est pas important, ce n'est pas sans importance, même quand on va analyser le conflit colombien et les conditions de sa résolution, à qui il a été demandé de faire une première, discussion autour des présentations qui auront été faites avant lui.
Buenos días a todas, a todos. Mi ponencia se titula Una paz esquiva, polarización política y sociedad dubitativa. Parte porque lo que busco recoger con ese título son las particularidades o esta serie de fenómenos que condensan un poco la realidad colombiana que vivimos. Justamente estamos conmemorando un año de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno nacional y las FARC, el pasado viernes. Y como balance de ese primer año del acuerdo, pues surgen un conjunto de dificultades en su implementación. Unas dificultades que hay que decir que se arrastran no solo de la implementación del acuerdo, sino desde el origen del acuerdo, o desde el origen mismo del proceso político que nos llevó a este acuerdo. El 4 de septiembre del 2011, cuando el presidente Santos anuncia al país que ha hecho acercamientos con la guerrilla de las FARC para iniciar un proceso de paz, era una apuesta política muy audaz del presidente, no era popular esa decisión. Si quizás se hubiese votado el referendo de aprobación de un acuerdo de paz con las FARC en ese momento, no habría división de opiniones, sino quizá una opinión favorable totalmente al no, porque veníamos de una sociedad que 10 años atrás, apenas 10 años atrás, había cerrado la puerta a cualquier negociación política con la guerrilla por el fracaso del proceso de paz con las FARC en el Caguán. 10 años de una concepción de la seguridad instalada en la conciencia pública muy fuerte por la política de seguridad democrática, es decir, que el Estado era capaz de derrotar militarmente a la guerrilla y que la apuesta sería hacer la paz con los paramilitares, pero también hacer la guerra total a las guerrillas, y que se podían derrotar militarmente. De hecho, el gobierno Santos, el presidente Santos, es elegido como continuador de esas políticas. Cuando el presidente toma esa decisión y adopta esa bandera, vuelvo y les digo, hace una jugada muy audaz porque pone en riesgo un capital político que no era suyo, digamos, él lo acumuló estando cerca del presidente Santos en sus administraciones, del presidente Uribe en sus administraciones, pero después se la juega toda con este proceso de paz. Es un proceso de paz que durante 5 años, al ser desarrollado en medio de la guerra, hacía que fuera todavía más difícil que ganara popularidad, que ganara apoyo social. Precisamente porque se revivían todos los miedos, ¿no? La sociedad asumía con miedo la negociación porque decía, una vez más la guerrilla va a instrumentalizar esta negociación para fortalecerse porque no quiere en realidad la paz. Lo que quiere es fortalecerse para continuar la guerra o para finalmente hacer abdicar al Estado. Entonces, este proceso de paz tenía la particularidad de que tenía que arrancar en un contexto adverso para ganar opinión pública o ganar a una franja de la opinión que no tenía. Que no tenía. Entonces, cuando llegamos al momento de la refrendación del acuerdo de paz el año pasado, el 2 de octubre, y gana el no, ese margen tan estrecho por el que lo hace el no, la no refrendación popular, pues pone de manifiesto que todavía persiste en la sociedad, que era muy difícil que el acuerdo automáticamente remueva unas ideas demasiado entronizadas en la sociedad con relación al tema de la seguridad, a lo que implicaba este acuerdo para la sociedad. El margen por el que ganó fue muy estrecho. Lo que revela como polarización muestra lo que logró ganar la paz para sí como aliados dentro de la sociedad, ¿no? Pero también nos dejó una gran duda el referendo. El referendo en el que se pierde la refrendación, que gana el no, dejó la gran duda de por qué no votó el 70% de la población. O sea, esta división profunda es entre un 30% de quienes votaron, pero el 70% no votó. No sabemos si tras ese 70 hay indiferencia, si hay escepticismo o si hay un rechazo abierto que no se llevó a las urnas. Y es un 70% que dice un poco que el tema de la paz le importaba un 30, y ese 30 muy dividido, y el otro 70 no sabemos si le importa o si hay un rechazo tácito. Esto para decir que el proceso de paz colombiano tiene como gran desafío el que tiene que seguir construyendo apoyos sociales, porque no los tiene. Es un proceso de paz sin movilización social o sin apoyos sociales suficientes. No los tuvo en su gestación, en su acuerdo y en su implementación. Muchas de las dificultades tienen que ver con que no tiene ese apoyo social, y esas dificultades dependen en su superación en gran medida de la voluntad de las partes. Si algo puede hacer fuerte este proceso mientras llegan los apoyos sociales, es la estricta voluntad de las partes. Y en eso hay que decir que tanto el gobierno como las FARC han hecho manifestaciones públicas de ello. A pesar de las dificultades, el viernes pasado el presidente Santos se reúne con Rodrigo Londoño, el presidente hoy del partido de las FARC, y ambos refrendan el compromiso y la voluntad política de seguir adelante con el acuerdo. No es un tema menor, porque hay que recordar que en la negociación política del gobierno Uribe con los paramilitares, un año después de que se terminó la dejación de las armas, los paramilitares rompieron la negociación, ¿no? Entonces, con todo lo que terminó dejando de herencias malditas, de alguna manera, ese proceso de negociación con los paramilitares. O sea, aquí hay un tema de voluntad política muy firme, muy fuerte, que hay que reconocerle a las partes y que va a ser clave mientras se ganan más apoyos sociales. Porque los hechos los han empezado a ver, pero tanto tiempo acumulado desde el punto de vista cultural, social, mentalidades ya tan arraigadas, no se pueden desprender. Es decir, nadie imaginaba, ni siquiera creo que un año antes de que se hiciera la refrendación de los acuerdos o se votaran, que las FARC iban a dejar las armas. Eso era inimaginable. En el lenguaje incluso las FARC mismas no se permitían hablar. Fueron transitando de entrega de las armas a dejación de armas, pero ni siquiera se lo permitían, ¿no? Y siempre en las negociaciones se hablaba de esa parte ambigua de negociamos, llegamos al acuerdo, pero no entregamos las armas. O esa parte siempre quedaba en un punto. Aquí hay que decir, las FARC fueron absolutamente leales en el proceso, a pesar de todas las dificultades. Siguieron un cronograma estricto de entregas, la verificación internacional liderada por la ONU dio cuenta del efectivo desarme, la entrega de caletas. Y esa voluntad política es muy importante porque es la que ha permitido, creo yo, que el nivel de disidencias de las FARC no sea mayor de lo que ha sido. Hay que reconocer que ha sido mayor de lo que se esperaba, pero no comparable a lo que ha pasado con los paramilitares o comparable a lo que ha pasado en otros contextos internacionales. Y eso se debe al hecho de que si la dirigencia de las FARC está comprometida y manifiesta esa voluntad, eso es muy importante para la cohesión interna de su fuerza. Pero, como les digo, enfrentamos esta dificultad o estas vicisitudes de un acuerdo que no tiene apoyos sociales Y un tema muy importante también de las dificultades que estamos enfrentando es que no solo nos enfrentamos al problema de la implementación de lo acordado, sino que incluso lo acordado todavía parece no cerrado. Es decir, las FARC negoció con el gobierno, pero ahora se viene un proceso que ni siquiera es de negociación, es de, en Colombia lo llamamos eufemísticamente ajustes, es un proceso de facto de renegociación del acuerdo con el Estado. O sea, negocio con el gobierno, pero renegocio con el Estado. Porque cuando llego al acuerdo y quiero implementar el acuerdo, debo pasar por el marco jurídico que me va a permitir desarrollarlo. Y en ese marco jurídico, el resto de poderes públicos del Estado intervienen, dan su opinión. Y no es solo dar su opinión, sino que es una opinión vinculante y que tiene incidencia en el contenido mismo de los acuerdos. Por eso, vuelvo y repito lo de la voluntad política, porque a pesar de los tropiezos que ha habido relacionados con temas de contenido del acuerdo, es muy valioso la lealtad de las partes de reafirmar el compromiso. Entonces, en ese proceso nos hemos enfrentado a un año en el que han surgido dificultades en la implementación propias de cualquier acuerdo, ¿no? Pero han surgido unas que en nuestra opinión son adicionales, que no estaban previstas que surgieran en esa dimensión, producto de este tránsito de la negociación entre gobierno y guerrilla a la refrendación con el Estado. Y ahí ha jugado un papel fundamental el tema de que los acuerdos tenían que ser avalados por la Corte Constitucional, que es el poder judicial máximo, la última instancia del poder judicial en Colombia. Y es el que valida que los acuerdos estén en consonancia con la Constitución, en fin, que no hayan alteraciones, digamos, al orden democrático en el acuerdo mismo. Y la Corte ha sido importante en el sentido de que gran parte de lo que ha ido aprobando avala el acuerdo y refuerza cosas del acuerdo. Ha dicho cosas tan importantes como, una, el acuerdo es vinculante para el Estado. Los próximos tres gobiernos tienen que cumplir el acuerdo, independientemente del signo político de esos gobiernos. Ha dicho, y este era un tema muy fuerte para los que lideraban el no, el acuerdo de paz no sustituye la Constitución, es acorde a la Constitución. Ha avalado el tema de la participación política de los guerrilleros y ha avalado la jurisdicción especial para la paz. Ha dicho, sí, este modelo de justicia tradicional no sustituye la Constitución, no es contrario, pero en los detalles de algunas decisiones de la Corte Constitucional han venido una serie de decisiones que sí han tenido efectos sobre la implementación misma y sobre el desarrollo del marco jurídico para esa implementación. Y han sido dos temas fundamentales, diría yo. El primero es de procedimiento. Cuando se pierde el referendo, cuando gana el no el referendo, se generó un gran debate también acerca de cómo se podía refrendar lo renegociado, porque hubo un proceso de renegociación, 54 largos días, en donde los del sí y los del no se sentaron para intentar renegociar, y se llegó a un acuerdo renegociado. Hay que decir que lo que era el acuerdo de La Habana original, el que se firmó el 26 de septiembre en Cartagena, y el del Teatro Colón del 24 de noviembre, tenía cambios importantes. No fue un proceso de ajuste cosmético únicamente, hubo cambios importantes. De hecho, hay que decir que un tema que incluso pone en peligro a los acuerdos, los pone en un límite muy peligroso frente a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, tiene que ver con el tema de justicia. Y es hasta la noche anterior a tener el texto listo para refrendar en el Colón, se introdujeron cambios en el tema de la línea de mando, probar responsabilidades por línea de mando. Ustedes saben que en la justicia transicional, ante la magnitud de los delitos, lo que se espera es el juzgamiento y condena de los máximos responsables. Y eso muchas veces se puede probar a través de la línea de mando. Se pusieron tantas condicionalidades a la línea de mando en esa renegociación que va a ser muy difícil probarlo, prácticamente, ¿no? Y eso es ya es una advertencia que había hecho, que hizo la fiscal de la Corte Penal Internacional frente a la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero ese fue un tema de línea de mando que se renegoció en esos 54 días. Como él, se bajaron del acuerdo muchas cosas, muchos temas relacionados con avance en temas de género, de reconocimiento y diversidad sexual. Todo eso se bajó, se le bajaron muchas cosas al acuerdo. De hecho, entre las partes se llegó a hablar de 400 proposiciones para revisar y solo no llegaron a un acuerdo en dos. Fueron dos por las cuales el sí y el no pudieron digamos, públicamente anunciar el acuerdo. Una, participación política para la guerrilla y no cárcel. Esos fueron los temas fundamentales sobre los que no hubo el acuerdo. No son temas menores, son temas que siguen polarizando a la sociedad fuertemente. Es decir, la sociedad, el ciudadano de a pie en Colombia sigue siendo muy escéptico y desconfiado, y además no comprende por qué razón debería haber un tratamiento diferencial para las guerrillas en relación con los paramilitares. Parte de la oposición política también está reclamando eso. El modelo de justicia que me hicieron y me impusieron para aplicar a los paramilitares en Justicia y Paz, lo quiero con las guerrillas. Es decir, ¿qué pasó con los paramilitares? No participación política, sí cárcel. Eso el ciudadano a pie, la diferencia de por qué dar un tratamiento diferencial con la guerrilla, no la entiende. El ciudadano a pie te dice en el taxi, en el transporte público, te dice, ¿por qué le tenemos que pagar a estos delincuentes? ¿Por qué deben participar en política si cometieron graves crímenes? ¿No? El delito político está muy desdibujado en el país, pero no solo por el país, sino por el ámbito internacional, ¿no? Lucha por la defensa de los derechos humanos, internacionalización de la justicia, lucha contra el terrorismo. Todos nos dicen, la gravedad, los crímenes graves deben ser juzgados y condenados sin importar quién los hizo, ni por qué los hizo, ni cuál fue la finalidad con la que los hizo. Por eso la sentencia de la Corte, cuando reconoce la participación política de las guerrillas, me parece que es una forma de volver a reconocer una tradición jurídica que había en Colombia de reconocimiento del delito político, de la rebelión, digamos, como delito político. Lo que no hizo la Corte cuando revisó la ley o el marco jurídico para la desmovilización de los paramilitares, que fue negar el delito político. Dijo, aquí no es delito político. Entonces, vuelvo otra vez al tema para ya ir cerrando, de cuáles son esos detalles de las decisiones de la Corte en donde se fueron dando elementos que han generado complicaciones o dificultades adicionales a la implementación. El primero es que entonces cuando había esta discusión sobre cómo se refrendaba el acuerdo, se pusieron demandas ante la Corte Constitucional, los del no decían vuélvalo y llévelo a las urnas, los del sí decían no, busquemos un mecanismo alternativo, la Corte en esa demanda falló a favor de que el Congreso podía refrendar el acuerdo, porque representaba al pueblo el Congreso, entonces que lo podía hacer. El Congreso, por una aplastante mayoría y una gran disciplina de la mayoría del gobierno, refrendó efectivamente el acuerdo, pero en esa demanda también se reclamaba contra el procedimiento del Fast Track. El Fast Track era un procedimiento legislativo especial que permite, de manera excepcional, le da poderes al presidente para presentar iniciativas legislativas que se aprueben en la mitad del tiempo de una ley ordinaria. El Fast Track tenía dos particularidades. Una, que la iniciativa se presentaba desde el gobierno para ser votada en bloque. Y segundo, no se podía modificar. Eso generó debate en algunos sectores que decían entonces, ¿qué le piden al Congreso de la República? ¿Que sea como un notario únicamente? Que, en fin. La Corte, cuando resolvió esa demanda, dijo sí, el Congreso puede refrendar el acuerdo. Pero respecto al Fast Track, tenemos una objeción, tenemos un condicionamiento. Y es que el Fast Track, como está, o como se presentó, o como se pretende desarrollar, viola el principio de equilibrio de los poderes. Porque el Congreso no puede perder su facultad deliberativa. ¿Eso qué implica? Implicaba que la iniciativa gubernamental, que no se podía tocar, ya se podía tocar, y que no había que votar en bloque, y que había que debatir cada uno de los de las iniciativas legislativas que llegaban para la implementación del acuerdo. Entonces, ese detalle procedimental fue crítico, porque cambió todos los tiempos de la implementación normativa. Es decir, el hecho de poder votar en bloque hubiese permitido que este primer año el tema del marco jurídico del acuerdo de la implementación normativa estuviese lista. Pero esto introdujo trabas y fue retrasando, hasta el punto de que esta semana se vence el tiempo del Fast Track y de 24 iniciativas legislativas que debe presentar el gobierno para el marco jurídico para la implementación, solo va a poder sacar 12 y no sabemos todavía si las va a poder sacar completas. Y entre ellas está una crítica que es la del modelo de justicia transicional, la jurisdicción especial para la paz. El hecho de que el Congreso pudiera deliberar y modificar abrió el juego político. Entonces todos los sectores y las fuerzas políticas empezaron a intervenir sobre partes del acuerdo. Entonces, en la discusión hoy de la Jurisdicción Especial para la Paz, han empezado a colgar a recortar temas y a agregar otros. Entonces, cuestionaban la elegibilidad de los... ponían condiciones para la elegibilidad de los miembros de la Jurisdicción Especial para la Paz, pero también otros decían, si le van a dar participación política a las guerrillas, no es el momento también en aras de la reconciliación nacional, que la Jurisdicción Especial para la Paz le dé beneficios a los parapolíticos, por ejemplo. O sea, empezaron a abrir el espectro, modificando o desnaturalizando temas esenciales del acuerdo, por sobre todo en el tema de jurisdicción. En el tema de la Corte Constitucional, un tema muy importante que también cambió sobre la naturaleza del acuerdo es que el acuerdo contemplaba un modelo de justicia transicional que ofrecía no solamente ese mecanismo para los combatientes en la ilegalidad, sino que se lo ofreció a miembros de la fuerza pública, agentes de Estado, pero también lo habría para terceros civiles que habían participado en el conflicto armado. Cuando avala o refrenda el acto legislativo de la Jurisdicción Especial para la Paz, la Corte dice, lo avalo, pero los terceros civiles no pueden quedar obligatoriamente conminados a hacer, o no pueden quedar dentro de la jurisdicción de la Jurisdicción Especial para la Paz. Es decir, no es obligatorio para ellos concurrir a la jurisdicción, ni ella va a tener competencia sobre sus casos. Ellos van a la justicia ordinaria, y solo quienes lo quieran hacer voluntariamente lo harán dentro del marco de la jurisdicción. Y la jurisdicción, y lo interesante del modelo transicional era que le ofrecía esa alternativa a varios actores. Aquí se la quita. Hay interpretaciones distintas. Hay algunos que dicen, el dejarlo voluntario puede generar incentivos interesantes porque alguien puede decir que si es mencionado reiteradamente y las pruebas empiezan como a irse en su contra, se puede ir a la jurisdicción y ahí puede encontrar unas penas diferentes. Pero el problema es que al llevarlo a la justicia ordinaria, de hecho eso no estaba contemplado de lo que pasó en la Ley de Justicia y Paz. Por ejemplo, hay 15.000 compulsas de copia de terceros a la justicia ordinaria y tenemos muy pocos resultados en términos de esclarecimiento de justicia con esos casos. Entonces ahí se viola un principio básico del acuerdo que decía la justicia es una justicia de cierre, es un modelo para todos de justicia, y deja un poco el proceso en esa parte de la amplitud o la cobertura que pueda tener la justicia transicional con dificultades, ¿no? Pero vuelvo a reiterar, y con esto ya cierro, que es muy importante, a pesar de estas dificultades, que van a continuar porque son 12 iniciativas legislativas de 24 y las que falten por refrendar vuelven a la Corte Constitucional. O sea, hay que tener los ojos en Colombia porque podemos seguir en un proceso de más de un año o de dos en donde avancemos en la implementación, pero los elementos normativos de la implementación todavía pueden no estar completos. Eso puede ser muy peligroso para el proceso mismo, y donde podrán seguirse dando esos procesos que he llamado yo de la renegociación con el Estado. Muchas gracias.
En el caso de Colombia, se ha planteado que para salir de la violencia es interesante estudiar la experiencia colombiana de justicia transicional, porque argumentan algunos, es el primer modelo de justicia transicional después de la expedición del Estatuto de Roma, después del inicio de funciones de la Corte Penal Internacional. Pero yo creo que hay una segunda lección que vale la pena estudiar de la experiencia colombiana, y es el papel de las fuerzas militares en la salida del conflicto armado, que ha sido excepcional. Porque en los últimos años, con la emergencia de lo que Mary Caldor denominó las nuevas guerras, han surgido una verdadera, ella la denomina perestroika militar. Mary Caldor dice que la OTAN en Estados Unidos, sobre todo los partidarios de la revista Small Wars, Francia, Canadá, casi todos los países europeos, incluso las doctrinas militares china y rusas, se vienen adaptando a este fenómeno de las nuevas guerras. Y me parece, y es lo que les voy a plantear, que el ejército colombiano estudió a fondo esta perestroika militar a nivel mundial de adaptación a las nuevas guerras, Y la experiencia colombiana, a mi modo de ver, yo no sé si es la primera de justicia transicional después de la creación de la Corte Penal Internacional, pero sí tengo la certeza de que es la primera experiencia exitosa de planes militares para salir de la guerra en el marco de las nuevas guerras. En Colombia, las fuerzas militares fueron siempre los saboteadores, fueron importantes saboteadores de los procesos de paz, lo que se denomina en la literatura los spoilers, los saboteadores. La última vez que un militar en servicio activo se reunía con un guerrillero fue en el año 1953, durante el gobierno del general Rojas Pinilla, el único gobierno militar que tuvo Colombia en el siglo XX, el general Alfredo Duarte Blum se reunió con el jefe guerrillero de los Llanos Orientales, Guadalupe Salcedo, pero desde 1953 hasta hoy, durante más de 60 años de conflicto armado muy desigual, las fuerzas militares no aceptaban de ninguna manera reunirse con guerrilleros. Incluso eran enemigos de cualquier negociación política que no fuese una negociación simplemente mínima o simplemente lo que se denomina unos temas operativos para la desmovilización con garantías. Pero las fuerzas militares no aceptaban que hubiese una negociación con temas sustanciales y mucho menos que un militar se reuniera con guerrilleros que consideraban que era en contra del honor militar. Lo excepcional de lo que ocurrió en Colombia en esta etapa fue que por primera vez desde 1953 un general en servicio activo, el general Flores, que había sido un general de mucha significación en el plano militar, se reunió en La Habana con las FARC, en la Subcomisión Técnica para el Fin del Conflicto, para discutir todos los temas relacionados con la desmovilización, el desarme y la reintegración de las FARC a la vida civil. Es decir, se rompió una tradición. Y las fuerzas militares no solamente participaron como actores, no en los temas políticos de la negociación, sino en los temas operativos, sino que las fuerzas militares han evitado que haya ningún tipo de problemas graves durante toda esta etapa compleja de la desmovilización de las FARC, sino que además cada vez que las FARC tenían problemas, no llamaban al alto comisionado de paz, Sergio Jaramillo, sino que llamaban al general Flores. Es decir, las fuerzas militares se convirtieron en garantes del proceso de paz con las FARC y ahorita están participando como actores activos en los mismos temas en Quito con el Ejército de Liberación Nacional. Esto es excepcional. Como ustedes saben, un proceso de paz funciona si hay tres grandes condiciones. La primera condición, que ambas partes acepten que es imposible acceder al poder por la vía militar, que es imposible obtener un éxito sobre su adversario por la vía militar. Segundo, si ambas partes consideran, llegan a la convicción de que pueden llegar a sus objetivos, a una parte de sus objetivos, en la mesa de negociación con base en el principio de segundo mejor objetivo. Y en tercer término, si es posible pasar de una agenda maximalista a una agenda pragmática, lo que se denomina un punto negociador, el punto N, es decir, una agenda mutuamente beneficiosa. En el caso de Colombia, me voy a referir al primer punto, la convicción de la imposibilidad de ganar la guerra por parte tanto de las FARC como por parte del ejército, se debió fundamentalmente a tres factores. El primero, el brutal debilitamiento militar de las FARC. Las FARC que pasaron de 20.000 a 7.000 hombres y eran claramente conscientes que no podían acceder al poder por la vía militar. Pero esto lo reconocieron. en varios documentos internos que llegaron a manos de las fuerzas militares, y las fuerzas militares, al conocer estos documentos que se llaman El Renacer Revolucionario de las Masas, año 2008, el documento Hacia una Segunda Independencia, año 2010, y el documento Masas del año 2010, donde las FARC reconocían que la guerra estaba perdida y que necesitaban transitar de las armas a la política. Cuando las fuerzas militares conocieron estos documentos, llegaron a la convicción de que por primera vez en la historia, en la larga historia de los procesos de paz, las FARC iban a negociar, no con cartas marcadas, iban a negociar no para fortalecerse militarmente, sino que iban a comenzar un proceso genuino de negociación, y esto fue fundamental. Por otra parte, hubo evidentemente una decisión política en el año 2010 con el presidente Santos, quien expidió en el año 2011 la Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad, que abría el camino para la negociación política y que se tradujo en un esquema, en una doctrina militar que se llama Espada de Honor, que planteaba la posibilidad de que las fuerzas militares participaran activamente en el proceso como protagonistas y garantizaran el éxito del proceso de paz. Pero lo más interesante, a mi modo de ver, fue que las fuerzas militares comenzaron a estudiar las nuevas doctrinas militares a nivel internacional. Comenzaron a estudiar las doctrinas militares, insisto, de la OTAN y de otros países europeos para adaptarse a las nuevas guerras. Como ustedes saben, Mary Caldor produjo en el año 1999 un libro fundamental que se llama Las Nuevas Guerras, Violencia Organizada en la Era Global. Y un poco más tarde, en el año 2002, un autor alemán, Münkler, publicó una obra que se llama Viejas y Nuevas Guerras, Asimetría y Privatización de la Violencia. El concepto de nuevas guerras muestra la incertidumbre conceptual. Ha habido un gran debate en los últimos años para ver cómo entendemos este fenómeno de las nuevas guerras. Algunos autores hablan de guerras de cuarta generación, guerras de tercer tipo, guerras asimétricas, guerras híbridas, guerras contra la gente, guerra de espectador deportivo, guerras posmodernas, guerras privatizadas, y muchos otros términos se están utilizando, y muestra la gran confusión de lo existente. Ya no estamos en las guerras interestatales, ya no estamos en las guerras de liberación nacional, anticoloniales, ya no estamos en las guerras revolucionarias, estamos en un fenómeno muy complejo, que como ustedes saben, tienen en general cinco características estas nuevas guerras. Son guerras propias de la era de la globalización y de la revolución tecnológica. Nadie entendería Al-Qaeda sin Internet, sin la revolución tecnológica. Son conflictos eminentemente internos y no conflictos interestatales. La última guerra interestatal fue Irán-Irak. Son conflictos donde hay una multiplicidad de actores armados con un poder de fuego asimétrico. Son conflictos donde se busca construir identidades, pero no identidades políticas como el pasado, sino identidades étnicas, culturales, religiosas o de otro tipo. Y son conflictos donde se crean mercados de violencia a través de recursos internos de los actores armados. Estas nuevas guerras y esta gran confusión conceptual que existe a nivel internacional para caracterizarlas exactamente, llevó a las grandes escuelas de pensamiento militar en el mundo a plantearse que estábamos en un nuevo entorno estratégico después de la Guerra Fría, y en este nuevo entorno estratégico se requería repensar, insisto, las doctrinas militares. Y el caso de Colombia, como dijo María Emma, era claro. Teníamos el más antiguo conflicto armado de Occidente, después de los procesos de paz de El Salvador, Guatemala, Irlanda del Norte y el abandono del terrorismo por parte de ETA, el último conflicto armado de Occidente, pero que al mismo tiempo se vea superpuesto a la emergencia de grupos y de redes criminales propios de las nuevas guerras. Entonces Colombia hacía parte, era el último conflicto de la Guerra Fría en Occidente, pero era parte ya de los conflictos, de las nuevas guerras que se estaban desatando en el mundo. Entonces esto obligaba a repensar la estrategia militar. ¿Y en qué consistió fundamentalmente el nuevo pensamiento militar hoy dominante, la perestroika militar? Fundamentalmente en la idea de que hoy, a diferencia del pasado, la noción de victoria militar comienza a disiparse, a perder sus fronteras. Ya no se presentan batallas decisivas, ya no hay Waterloo, ya no hay la caída de Berlín, ya no hay la caída de Saigón, ya no hay la caída de La Habana, ya no hay victorias decisivas, lo que existen son victorias ambiguas, donde los conflictos armados no terminan, sino que se transforman. Lo vivimos en Irak, lo vivimos en Afganistán, lo vivimos en Siria, lo vivimos en Libia, en Malí, en Somalia, lo vivimos incluso en El Salvador y Guatemala, donde los conflictos armados se cierran con acuerdos de paz, pero luego se transforman en fenómenos de violencia demenciales. Y entonces, esta situación de este empantanamiento en los conflictos armados, donde había ausencia de victorias militares claras, un antes y un después, llevó a 4 a 5 grandes cambios que simplemente menciono para la discusión. Primero, el concepto de victoria, que era el eje del pensamiento militar de Occidente, de Clausewitz, se repensó. Y hoy en día el concepto de victoria militar no tiene ningún valor estratégico. Se plantea ante la ausencia de victorias decisivas. Y el concepto de victoria hoy es el concepto de lograr la paz. Lograr la paz, sea por la vía de la negociación o sea por la vía de cambiar la actitud de las fuerzas militares, buscando ganarse la mente y el corazón de la población con objeto de aislar a los grupos terroristas y consolidar la seguridad regional progresivamente para consolidar la paz. Es decir, ya el eje estratégico del pensamiento militar de Occidente no es el concepto de victoria, sino es el concepto de lograr la paz. Ese es el primer gran revolución. La segunda gran revolución es que ya hemos pasado del concepto de guerra total a la búsqueda de objetivos intermedios. Ya no estamos en la idea de la guerra total de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, o de Irak, de la Segunda Guerra del Golfo, o de Kosovo, en la guerra contra Milosevic, sino la idea de objetivos intermedios y de una aproximación indirecta. La idea de una aproximación directa, basada en la superioridad aérea contundente, donde se aplasta el ejército de Irak y a Hussein en la Segunda Guerra del Golfo, pero que no permite que la guerra finalmente tenga un final claro. Ese concepto de guerra total y de aproximación directa con superioridad ya está siendo repensada, y nos estamos acercando a la idea de aproximaciones indirectas, fundamentalmente cambiando la actitud de las tropas en Afganistán con la población, o en Irak, o en Siria, o en otras partes, y con la idea de que haya lo que se llama, lo que se ha llamado en Colombia, lo que se ha llamado a nivel internacional, la construcción, el nation building, el state building, la construcción estatal como eje de los dos ejércitos del siglo XXI. Hay muchos documentos, yo les recomiendo, hay un documento del ejército francés que se llama Gagné la bataille, conduire la paix, les forces terrestres dans le conflit aujourd'hui et demain, que es el eje del ejército francés moderno, donde están todos estos conceptos referidos, donde se están rescatando las ideas de Jean Nemo, que se llama la guerra dans la foule, la guerra en medio de la población, y se están rescatando un poco las experiencias exitosas y no fracasadas de la época colonial. El otro eje del pensamiento militar actual es la necesidad de tener una de evitar los daños colaterales, la afectación a la población civil, porque eso deslegitima a los ejércitos en estos conflictos internacionales, sobre todo los ejércitos exteriores, y dificulta la construcción de consensos y de salidas. Entonces, hay un gran peso de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, y la redefinición del adversario. La redefinición del adversario, de superar la idea del terrorismo como eje de la política global hacia la búsqueda de la paz global con un nuevo concepto internacional de seguridad. Y finalmente, el último concepto estratégico hoy del pensamiento militar, de la perestroika militar, es la necesidad siempre de tener estrategias de salida. Estrategias de salida para evitar el empantanamiento en Afganistán, o en Irak, o en Siria, o en el Libia, en Libia, e incluso el empantanamiento que está el conflicto armado en Colombia, tener estrategias de salida garantizando la seguridad de la población en la salida. Digamos, lo interesante de la experiencia colombiana es que fue el primer ejército exitoso, a mi modo de ver, en este marco de las nuevas guerras, que logra alcanzar la paz cambiando, haciendo una profunda revolución interna. Me siento con los guerrilleros en La Habana, me siento con los guerrilleros en Quito, garantizo la seguridad de la movilización, garantizo la seguridad del posconflicto y se replantea completamente el modelo militar para lograr la paz. Y yo creo que buena parte de lo que logramos los colombianos fue gracias a las nuevas fuerzas militares que hoy han replanteado su modelo en Colombia. Muchas gracias.
Muchas gracias, Pizarro. Y por el tiempo limitado que ha utilizado, yo creo que la manera como tú articula la cuestión del ejército colombiano de su nueva estrategia frente al conflicto armado y los conflictos a nivel internacional, los nuevos conflictos y las nuevas doctrinas militares es muy, muy relevante y que en las discusiones eso es el tema que necesariamente va a salir de nuevo.
Comme l'a dit Christian, à tout le moins, j'ai beaucoup d'ancienneté en Colombie, puisque je suis arrivé en Colombie en même temps que les FARC sont nés, en 1984, j'ai la même ancienneté des FARC, et d'autre part, j'ai la fatigue qu'ont d'autres collègues, parce que je suis arrivé hier de Colombie, et donc j'ai tout le problème du voyage, si je ne suis pas clair, c'est à cause de ce problème de voyage si récent. Je ne vais pas parler en détail des problèmes de la négociation et de la manière dont l'accord est appliqué ou pas. Mes collègues en ont parlé, en parleront. Il y a bien des problèmes dont il faudrait parler. L'un des problèmes étant celui de l'importance des activités économiques illégales, la drogue, les augmentations très fortes des cultures de drogue au cours des dernières années, l'importance des activités minières illégales et tous les problèmes juridiques qui ont été largement abordés, y compris la difficulté pour mettre en place la justice transitionnelle. Je me propose de revenir sur un autre thème de plus long terme, qui est le problème de la carence de vision de la nation, au sens de la vision à la fois de la nation et de la référence à la démocratie dans le cadre de la nation. Ce thème-là m'apparaît important dans la longue durée et il m'apparaît important pour comprendre le non au référendum récent et le scepticisme profond de l'opinion à l'égard de l'accord. D'une certaine manière, il y a un profond doute sur la capacité des Colombiens, de la majorité des Colombiens, dans leur diversité culturelle, etc., de se projeter vers l'avenir. Et je dirais que le non-référendum, c'est une difficulté de se projeter vers l'avenir. J'évoquerai trois thèmes rapidement. Premièrement, cette carence de symbolique nationale, au non-sens de création d'un mouvement nationaliste, mais au sens de la symbolique démocratique nationale. Deuxièmement, la préférence des élites pour la violence plutôt que les risques du populisme. Troisièmement, la fragmentation des réseaux de pouvoir, le fait que la nation a éclaté entre une multiplicité de réseaux locaux de pouvoir. Et je terminerai en évoquant rapidement le problème de la lecture de l'histoire, le fait qu'elle se fait à travers des lieux communs concernant le passé et cette impossibilité, là encore, de lecture vers l'avenir ou de lecture du passé à travers des catégories historiques sérieuses et cette sorte de vision en termes de catastrophe du passé qui est un élément très profond qui empêche le sentiment d'un impossible avenir de la nation. Quand je dis qu'il y a une carence de la symbolique nationale, je ne fais que reprendre la remarque d'un historien américain bien connu, David Bushnell, qui parle à propos de la Colombie, une nation en dépit d'elle-même. De fait, si on revient, et je pense qu'il faut revenir, aux années 30-45, la constitution de la nation colombienne est tout à fait différente de celle des pays d'Amérique du Sud, des pays d'Amérique du Sud au sens propre, je ne parle pas d'Amérique centrale. En quel sens? Dans les cas d'Amérique du Sud, au cours de la Grande Dépression, la nation s'est constituée à travers l'intervention des militaires, l'appui ou la contestation de classes moyennes constituées à l'égard des militaires, un modèle d'intervention économique provisoirement fort, et finalement une vision, malgré tout, une idéologie du progrès, comme disent les Brésiliens, la certitude que la nation devait aller de l'avant et progressant, que ce soit en Argentine, au Chili, on retrouve toujours ces catégories. Rien de cela en Colombie. En Colombie, dans les années 30-45, d'abord, les militaires sont mis à un rang tout à fait secondaire, n'ont pas le droit à intervenir dans le domaine politique. Un élément fondamental de l'histoire colombienne est, jusqu'aux années récentes, le civisme fondamental. Ce qu'on appelle l'oligarchie, c'est aussi une autre manière de désigner le civisme. Le fait que les militaires peuvent être voués à des tâches de police, mais qu'ils sont malvenus à intervenir, à parler de la nation. C'est fondamental, puisque ça reste vrai jusqu'aux années, je dirais, fin des années 90. Deuxièmement, prévaut un modèle libéral de développement. Autrement dit, ce sont des aristocraties privées et entrepreneuriales privées qui manient la politique économique. L'intervention économique de l'État est faible. Et si on regarde les chiffres, en 1952, d'un économiste, c'est la moitié de celle qui a lieu dans des pays de développement semblables. La division, le pays reste complètement divisé en deux parties traditionnelles. et quand on parle des partis traditionnels, cette division culturelle, elle demeure jusqu'aux années 90. Si on regarde pueblo par pueblo, la manière dont se définissent les préférences électorales, elle reste au moins aussi forte en 1985 que dans les années 1940, aussi poussée. Et donc, c'est un pays divisé, qui n'a pas d'unité, où pendant longtemps, aucun courant politique fort peut se créer en dehors de ces partis. Au lieu d'une citoyenneté générale impliquant des droits, on a donc des formes d'affiliation, d'identification partisane, et tout ceci est fondamental. C'est fondamental au sens de la manière suivante. Premièrement, certes, il y a un État en Colombie. Il y a un État, je vais le revenir, qui est d'autant plus capable de manier les politiques économiques que finalement, il n'a pas affaire à des contestations sociales organisées. Donc, il est libre, il ne maîtrise pas les périphéries du pays, mais il maîtrise la définition de la politique économique nationale vis-à-vis de l'extérieur. Deuxièmement, ça veut dire que les phénomènes de violence qui vont avoir lieu sont des phénomènes de violence qui certes mettent partiellement en cause l'État et la société, mais qui sont avant tout des phénomènes qui traversent la société, qui divisent la société elle-même. On ne comprend pas, et je vais revenir peut-être, l'atrocité des conflits si on ne voit pas que ce sont des conflits qui traversent de sociétaux, de la société entre semblables, simplement divisés par ces, éventuellement dans la première violence il y a des années 50, par ces appartenances locales. Et je veux faire remarquer aussi que la lecture que je fais, trop souvent, il me semble qu'on ne lit l'histoire de la Colombie que par à partir de la grille des thèmes agraires. Or, les thèmes agraires, ça renvoie à l'occupation permanente du pays, qui ne se fait qu'à partir des années 1940. Et donc, la problématique agraire ne peut pas être séparée de celle de la non-constitution d'une forte symbolique d'appartenance, d'insertion dans la nation. Deuxième remarque, j'ai dit préférence des élites pour les violences plutôt que pour le populisme. En Colombie, il y a eu deux épisodes de populisme. Un populisme fort, celui du gaétanisme, et un populisme faible, celui de l'ANAPO du général Loras Pinilla. À noter une première chose, c'est quand on parle du gaétanisme, ça se situe dans le cadre du parti libéral. Ce n'est pas un populisme qui en appelle au peuple tout entier. C'est un populisme qui en appelle au peuple libéral. Je dirais que d'une certaine manière, le populisme faible de l'ANAPO dans les années 65-70 est un populisme essentiellement conservateur qui, à un moment donné, réussit effectivement, lors de l'élection 70, à réunir les classes les plus démunies ainsi que certains secteurs les plus privilégiés contre les élites. Ce qu'il y a d'important, c'est que les deux populismes terminent par des phénomènes de conflit ou de violence. Le premier, le gaétanisme, la violencia des années 50, 200 000 morts. Et le dernier, l'ANAPO, je vois une relation un peu plus complexe, plus lointaine, de l'ANAPO, le M19, et ensuite, dans les années 80, les guérillas qui disent qu'avec le système bloqué du Front National, il n'y a rien à faire et seule la combinaison de toutes les formes de lutte peut s'imposer. Je ferai remarquer une autre chose qu'on ne remarque pas suffisamment. Les deux événements, violencia et conflit armé, surviennent dans les époques de bonanza. La violence, c'est évident, les cours de café n'ont jamais été aussi élevés. C'est une époque de prospérité pour beaucoup. Le conflit armé, c'est une époque de bonanza, avec l'argent qui vient de la drogue, qui permet à la Colombie de passer les années de la dite décade infâme, la décennie perdue des années 80. Dans tous les autres pays d'Amérique latine, ça se traduit par une crise économique très forte. En Colombie, rien de tout cela. La crise économique est inaperçue et on ne comprend pas l'énorme modernisation de la Colombie pendant le conflit armé si on ne voit pas que ça survient dans une époque de bonanza dont profitent les élites, certes, mais aussi énormément d'autres secteurs, classe moyenne, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que finalement, ces deux épisodes de conflit armé sont des épisodes dont profitent énormément les élites économiques, et alors qu'elles auraient eu à redouter beaucoup, éventuellement, si le populisme avait réussi à s'imposer. Il va de soi que loin de payer le coût qu'aurait impliqué un quelconque populisme, elles ont bénéficié individuellement et collectivement pendant ces époques de violence du fait de la bonanza. L'autre avantage pour les élites de la violence, c'est que ces époques de violence sont des époques pendant lesquelles les revendications sociales sont impossibles, où il y a destruction de ce qui existait comme organisation sociale. La violencia, on termine avec les organisations syndicales et largement avec les organisations paysannes. Et on oublie trop souvent, il faut le dire, le conflit armé se traduit par la neutralisation des revendications sociales, soit à travers les massacres, ou les, plus que les massacres, les morts ciblées des paramilitaires, et à travers l'instrumentalisation et aussi les sanctions de la part de la guérilla contre les leaders sociaux autonomes qui échapperaient à l'emprise donc, de ces guérillas. Donc, je résume, ces deux phases sont les phases dans lesquelles les élites, mais aussi beaucoup d'autres secteurs, profitent énormément de ces situations et que le non au référendum s'explique en large partie par la crainte d'une large partie de l'opinion que la conversion des FARC en parti politique puisse amener des revendications sociales auxquelles la Colombie n'est pas habituée depuis des décennies, et non seulement ça, mais puisse faire découvrir soudain les problèmes structurels de la Colombie qui n'ont jamais été résolus, y compris le problème de la concentration de la terre, problème important et problème qui n'a fait que s'aggraver durant le conflit armé UECA. Il me reste 5 minutes, donc je parlerai de la fragmentation. Jamais la fragmentation des réseaux de pouvoir politique n'a été aussi solide qu'en ce moment, aussi forte. La fragmentation était déjà en route depuis la Constituante, qui avait facilité la création de nouveaux partis politiques. A fortiori, elle l'est devenue à partir du moment où le conflit armé et la bonanza qui s'est traduite par l'afflux de ressources financières aux mains de réseaux locaux a permis la création d'une foultitude de petits réseaux politiques qui ont une importance fondamentale dans la politique nationale. À quoi il faut ajouter qu'il y a un phénomène nouveau depuis les années 1980 qui a coïncidé avec la drogue, c'est le fait de l'importance des périphéries dans l'économie du pays à travers le pétrole, le charbon, le tungstène et tout ce que l'on veut. Voilà que d'un seul coup, les périphéries du pays, ces périphéries sur lesquelles l'État n'avait pas de prise, ont revêtu une importance économique tout à fait importante. Ce qui veut dire que la symbolique nationale est encore plus mise en péril du fait que ce pays se développe maintenant aussi à partir des périphéries. Et je terminerai en disant, parlant donc de cette lecture de l'histoire à travers le passé. Finalement, la Colombie est un pays dont très peu de gens connaissent l'histoire et que la lecture ordinaire des Colombiens, c'est en termes de catastrophe. En lecture du passé, toute la Colombie, c'est une série de catastrophes. La violencia, l'assassinat de Gaétan, le Bogotazo, le conflit armé. Et donc, on lit toujours à travers un passé, et encore une fois, ces passés ne sont pas déchiffrés à travers véritablement des éléments d'interprétation, mais sont déchiffrés à partir de lieux communs. En termes de catastrophe, ça veut dire que d'une certaine manière, la lecture de l'histoire, comme alors même que la Colombie a connu d'énormes transformations pendant ces époques de conflits armés et de violence. La Colombie est devenue le pays dynamique que l'on sait, avec un taux de croissance beaucoup plus fort qu'ailleurs, avec une urbanisation des transformations, un luxe que l'on peut voir dans les villes souvent. La seule chose qu'on ne voit pas, c'est effectivement, par exemple, un métro à Bogota, parce que là, ça suppose une décision forte des autorités capables de prendre précisément ce que n'a pas fait l'État, qui est incapable d'intervenir fortement dans l'économie. Et donc, c'est une ville de 8 ou 9 millions d'habitants qui se trouve sans moyens de communication raisonnables. Ça, c'est l'envers. À part ça, les avancées, la métamorphose de la Colombie, l'éducation et tout ce que l'on veut sont tout à fait remarquables. Et donc, on a évoqué le mot de présentisme que Henri Rousseau va utiliser ou que Hartog utilise. Présentisme, ça veut dire quoi? Que finalement, il y a une double incapacité, une incapacité de se projeter vers l'avenir dans la mesure où prévaut la conviction que tout le passé, c'est un passé d'échec, ratage. C'est un lieu commun en Colombie de dire « ¿Por qué Colombia fracasó ?» Et c'est évident que la Colombie a échoué, toujours. Rien de positif à restaurer. Et d'autre part, je dis une incapacité aussi à penser le passé, parce que le passé n'est vu qu'à travers des lieux communs ou à travers une simplification, mais qui précisément explique qu'il y a si peu de vision de l'avenir, c'est que n'oublions pas que du côté conservateur demeure l'idée que le vrai fondement de la politique, d'une légitime politique, c'est le fondement religieux qui vient de la Constitution de 1986, qui vient de l'hégémonie conservatrice jusqu'en 1930, et que d'une certaine manière, à côté ou en face à la légitimité de type démocratique, il y a une autre légitimité, celle religieuse, et donc voilà qui amène à nouveau à regarder vers le passé. Rien d'étonnant dans ces conditions que lorsque se présente l'occasion de penser l'avenir, de penser donc de quoi résoudre des problèmes qui n'ont jamais été résolus, là c'est effectivement une réponse négative qui est offerte, le scepticisme qui prévaut, que d'une certaine manière la majorité de la population se montre souvent de plus en plus conservatrice, et donc une incapacité de penser l'avenir qui, encore une fois, est au fond à la fois du scepticisme et de l'importance des courants politiques qui refusent l'accord.
Bien, merci Daniel pour cette brillante analyse. Nous verrons si dans une situation de post-conflit, on pourra enfin circuler en métro à Bogota. Mais le scepticisme est peut-être de mise là aussi dans ce domaine. Bien, là, je passe la parole à M. l'ambassadeur qui doit faire une première analyse de ce qui nous a été dit avant qu'ensuite la discussion se fasse dans la salle.
Il est assez difficile pour moi d'intervenir après ces trois brillantes interventions parce que je n'ai pas les 53 ans d'expérience continue de Daniel dans l'examen de la réalité colombienne et je ne suis pas moi-même colombien comme Louis et Eduardo. Je peux me prévaloir que de 4 années passées en Colombie comme ambassadeur de France là-bas, précédé de 4 années comme ambassadeur au Venezuela, ce qui est aussi quand même un lieu d'observation de la violence en politique relativement privilégié. Je vais peut-être faire un peu de présentisme, Daniel, et plus revenir un peu sur la situation actuelle telle que moi je la vois et sur les enjeux des mois et des années à venir. Je crois qu'il y a... Bon, vous êtes tous... Vous savez tous que la situation de la mise en œuvre des accords est complexe. Il y a quelques jours, le président Santos lui-même a évoqué le verre à moitié plein. Donc on peut penser, dans la continuité de cette réflexion, c'est qu'il est aussi à moitié vide. Hein. C'est le même verre, c'est le même liquide. Lui, il le voit à moitié plein, on peut aussi le voir à moitié vide. Alors je ne voudrais pas toucher les enthousiasmes, et je m'exprime ici à titre personnel. Je pense que c'est intéressant d'éclairer un peu le côté à moitié vide pour justement essayer de faire en sorte qu'à l'avenir, il se remplisse un peu davantage. Il y a une chose très importante que Louis a indiquée au tout début de son intervention, c'est que finalement, cette hostilité d'une part importante de la population et le scepticisme d'une part encore plus grande, parce que très franchement, je dois vous dire que, et je n'étais pas le seul, c'est une situation très difficile à comprendre au moment du référendum du 2 octobre, donc... 2016, de voir que seulement 18% des inscrits ont voté oui, et que 82% des inscrits, soit ne sont pas allés voter, soit ont voté non. Sur un sujet quand même aussi important pour l'avenir du pays, qui venait après plus de 50 ans de conflit, après au moins 6 ou 7 tentatives de règlement pacifique du conflit, une telle indifférence ou rejet de cette perspective d'en finir est quand même relativement hallucinante. Et quelque chose d'assez difficile à comprendre, en tous les cas pour un observateur extérieur. Ce qu'a bien rappelé Louis, c'est que finalement, tout ça existe dès le début, c'est-à-dire dès 2011-2012 avec le début des négociations de la Havane. Mais moi, je ne suis pas sûr que la brèche soit beaucoup réduite en réalité. Hein. Et je crois qu'il y a deux, je ne dirais pas des vices de forme, mais deux problèmes qui sont très importants, qui expliquent pourquoi le verre est aujourd'hui à moitié vide. C'est que dès le début, la légitimité politique de ce processus est faible. La classe politique est divisée. C'est la première fois sans doute dans l'histoire que les classes... Enfin, Daniel me démentira, à d'autres époques historiques, ça a dû être le cas, mais enfin, en tous les cas, sur la période récente, que la classe dirigeante, qui est la même, c'est-à-dire que Santos ou Uribe, avant 2010, c'est la même chose. C'est la même politique économique libérale, c'est les mêmes alliances internationales pro-américaines pour l'essentiel. Il n'y a pas de différence, et d'un seul coup surgit ce conflit qui divise, et qui divise y compris les familles, qui divise... Les milieux d'affaires qui sont bien embarrassés en 2014 quand il faut choisir entre la continuité de la politique de Santos ou le retour à celle d'Uribe avec le candidat soutenu par Uribe. Et ça, c'est un facteur, je crois, qui déconcerte pas mal de gens, mais c'est un facteur de faiblesse très important pour la mise en œuvre des accords, d'où l'importance des élections qui viennent maintenant, donc législatives en mars et présidentielles en mai-juin, qui devront ou non confirmer l'orientation en faveur de la paix, ou au contraire, personnellement, je crois pas qu'il y aura de remise en cause des accords, même en cas de victoire d'un candidat uribiste. Les choses se feront de manière différente, qui est assez colombienne, c'est-à-dire qu'on maintiendra la fiction des accords et on ne les appliquera pas, ou on les appliquera à un rythme, disons, un rythme lent. Hein. Le risque est plutôt là, je crois que l'élection présidentielle est décisive dans ce sens-là, pour savoir finalement quelle va être la volonté politique. Et ça va de pair, mais cette faiblesse de l'appui politique va de pair avec un appui de la société, donc de la population, au processus. Alors, ça peut s'expliquer par mille raisons. Là aussi, si simplement faire référence à ma modeste expérience avec un certain nombre d'autres collègues lors du référendum donc du 2 octobre, j'ai participé à la mission d'observation électorale, qui est une organisation indépendante. Et nous sommes allés dans les quartiers les plus au sud de Bogota, donc les plus pauvres, et en plus dans un quartier qui avait voté majoritairement à gauche aux élections municipales. Et c'était finalement, malheureusement, on sentait venir la catastrophe quand on entendait des réactions du genre, mais finalement, c'est un quartier où il y avait beaucoup de déplacés du conflit qui venaient de la côte pacifique, où les gens disaient finalement, nous, on n'a pas été aidés par l'État quand on était arrivé ici, et on voit maintenant qu'on va donner, alors bon, les chiffres étaient gonflés en plus, parce que dans toute campagne électorale, il y a beaucoup de contre-vérités, surtout depuis quelques années, et donc on sentait que, y compris chez les gens qui auraient dû être normalement les plus favorable à la paix, en fait, c'était le contraire. Et quand vous regardez le résultat des élections, du référendum à Bogota, qui est assez instructif, puisque à la différence de beaucoup d'autres grandes villes, Bogota a voté oui, je crois à 56%, avec un taux de participation beaucoup plus élevé que la moyenne. Mais les trois circonscriptions, disons, qui regroupent le plus grand nombre d'électeurs au sud, qui sont les plus populaires, ont toutes voté non. Donc ça en dit long aussi sur la complexité de... Parce qu'on aurait pu penser que la classe moyenne, qui avait été très frappée par les enlèvements des FARC, et qui évidemment a des raisons légitimes de ne pas aimer les FARC, c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que si c'est vrai que dans certaines régions, comme à Medellín, dans l'Antioquia, elle a voté majoritairement contre les accords, dans d'autres villes, ça a été différent. Donc je crois qu'il y a ce premier facteur qui est un facteur... Et le deuxième, quand même, est... parfois un peu plus technique, lui s'en a parlé longuement, de la justice transitionnelle, qui est en fait celui de la mise en œuvre des accords. Et moi, je ne suis pas le seul à dire ça, la Colombie est un pays, et plus qu'un état de droit, est une république d'avocats. C'est-à-dire que tout le formalisme y est très grand, sans doute excessif, et le diable se cachant dans les détails, tout est possible à partir du même texte. Et quand vous regardez la constitution de 1991, qui a soulevé un grand espoir, qui est une constitution très très progressiste, qui reconnaît des choses que parfois d'autres pays d'Amérique latine n'ont pas encore reconnues dans leur constitution, le droit des indigènes, le droit des afro-colombiens, etc., le droit des enfants, le droit de tout le monde, et puis finalement après, 25 ans après, finalement dans les accords de paix, il y a beaucoup d'éléments de mise en œuvre de la constitution qui avait été adoptée dans l'allégresse générale 25 ans plus tôt. Donc la question est maintenant de la capacité à le mettre en œuvre. Et je trouve que cette décision de la Cour constitutionnelle, elle est quand même extrêmement inquiétante, parce qu'elle ouvre la voie, finalement, à détricoter tranquillement. Bon, si on le détricote pacifiquement, c'est un moindre mal. Je pense qu'il y a deux autres éléments qui sont des éléments qui sont aussi de nature à inquiéter, qui n'ont pas été évoqués ici, parce que c'était pas le l'objet, Daniel a simplement dit qu'il ne l'aborderait pas, c'est quand même le problème de la place des économies illégales. C'est-à-dire moi, je constate une seule chose, c'est pendant les 4 ans que j'ai passé en Colombie, quelle que ce soit source américaine ou source des Nations Unies, qui diffère un peu, mais qui ne différait pas du tout sur l'évolution, la superficie de coca a doublé. Et en 2016, elle était supérieure à celle de 2001, c'est-à-dire après 15 ans d'engagement américain, 10 milliards de dollars dépensés pour la lutte anti-drogue, c'est ce qu'on appelle un succès total. Et moi, ce qu'on me disait même à l'époque, c'est qu'en réalité, peut-être les financements des groupes, des guérillas et des groupes mafieux étaient peut-être assurés autant par l'extraction illégale de minerais, d'or en particulier, mais pas uniquement, puisque la Colombie a cette chance d'avoir beaucoup de minerais rares, que par la drogue elle-même. Et donc, pour en avoir discuté aussi avec notre compatriote qui dirige la mission des Nations Unies, Jean Arnaud, qui a quand même connu beaucoup d'autres processus de paix, de sortie de conflit dans d'autres pays, ce qui le frappait beaucoup, c'était quand même cette spécificité colombienne, c'est-à-dire comment arriver à s'en sortir tant que ce qui donne le carburant finalement à la violence est toujours là, quoi. Et alors si cette violence après n'est plus celle des FARC, elle reste celle de l'ELN. Si elle n'est plus celle de l'ELN, elle reste celle de groupes dissidents. Si elle n'est pas celle de groupes dits dissidents, ben, elle est celle des groupes liés aux paramilitaires ou des groupes liés aux narcotrafiquants, qu'ils soient colombiens ou mexicains. Tant que ça ne disparaît pas, je veux dire, ça va être très difficile de sortir de la violence. On peut sortir de la violence politique des FARC, mais la violence, ça va être extrêmement compliqué. Et là aussi... Moi, je suis d'accord avec Daniel. Il existe un État en Colombie. C'est-à-dire qu'il y a pas, c'est une situation qui n'existait peut-être pas dans d'autres types de conflits où l'État était pratiquement inexistant. Mais je veux dire, cet État n'a pas fait la preuve, quand même, depuis un an, de sa capacité à faire régner le droit dans les zones qui ont été abandonnées par les FARC. Moi, je peux vous dire, être allé dans 2-3 endroits qui ont été abandonnés par les FARC, y compris de chiffres officiels, la criminalité, la délinquance commune, hein, c'est-à-dire les homicides, la violence commune a augmenté. Pourquoi ? Parce que, bon, les FARC, alors on peut trouver ça choquant, mais exercer une forme de contrôle social et aussi de justice parfois expéditive, à partir du moment où elle disparaît et que l'État n'a pas repris les choses à son compte, eh bien, ma foi, les choses empirent. Donc il faut qu'il fasse aujourd'hui quand même la démonstration de sa capacité à faire régner l'État de droit dans des endroits qui, effectivement, sont des endroits reculés. Et c'est sans doute une des difficultés. Le problème, c'est que tout ce processus a été vendu sous l'étiquette, et c'était conceptuellement, je pense, ça doit beaucoup à Sergio Jaramillo, de paix territoriale. Paix territoriale, mais comme l'a dit Daniel Pecco, dans un pays où le pouvoir n'a peut-être jamais été aussi fragmenté. Donc c'est très compliqué d'arriver à unifier la mise en œuvre des accords selon les régions en fonction de la nature du personnel politique local, de ses liens avec les différentes formes d'économie illégale d'ancien paramilitarisme. Tout ça est assez compliqué. Donc moi je pense qu'une des difficultés actuelles, c'est que d'une certaine manière, il y a un déséquilibre entre les acteurs, c'est-à-dire que je ne cherche pas du tout à faire pleurer pour eux, mais les FARC sont en situation de faiblesse dans la situation actuelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez déposé les armes, je pense qu'ils les ont déposées de manière honnête, hein, ben, vous n'avez plus que, pour faire respecter les accords, que la capacité de l'État avec lequel vous avez signé des accords de le faire, et puis l'appui de la communauté internationale qui s'est beaucoup mobilisée depuis le début. Mais il ne vous reste que ça. Et finalement, les accords, ils ont été signés autant ou plus avec le président Santos qu'avec l'État colombien. Et donc le président Santos, comme chacun sait, est à peu près dans la même position de force que l'était notre propre président de la République quelques mois avant les élections présidentielles. Donc vous doutez bien que tout le monde n'est pas en train de courir pour avoir son onction pour se présenter aux élections de l'année prochaine. Donc ce n'est pas non plus un facteur qui favorise la mise en œuvre complète des accords. Parce que je crois que pour une partie de la classe dirigeante colombienne, l'important dans les accords, c'était de désarmer les FARC. Après, la partie la plus éclairée a compris qu'il fallait leur faire une place en politique et que, ma foi, on pouvait leur accorder 10 sièges au Congrès sur à peu près 270 pendant 8 ans. Alors cette concession-là, déjà, n'était pas admise par une grande partie de la classe politique. Mais très franchement, je veux dire, ça ne va pas faire forcément vaciller l'État colombien sur ses bases. Et le dernier élément, à mon avis, d'éclairage qu'on n'a pas abordé ici, mais qui n'est pas non plus, je crois, trop favorable, c'est l'évolution de la situation régionale. Et l'évolution de la situation régionale, c'est deux points. C'est évidemment l'élection de Donald Trump aux États-Unis, parce que ce qui est quand même assez remarquable, c'est la grande bienveillance d'Obama pendant tout le processus de négociation en Colombie. Et finalement, les Américains, non seulement n'ont pas mis de bâton dans les roues, ce qui aurait été possible, compte tenu de leur politique ancestrale quand même dans cette région du monde, mais au contraire, ils ont laissé faire. Ils ont même envoyé un envoyé spécial qui était assez étroitement associé aux négociations à la Havane. Mais bon, après l'élection de Trump, les choses sont quand même se présentent sous un jour tout à fait différent. Et à la manière qui est celle de l'individu, c'est-à-dire quand même un peu erratique, souvent concise, même si Twitter, maintenant, je crois, on est passé de 140 à 280 signes. Mais... Et l'angle d'attaque, il est compliqué pour le président Santos et pour nos amis colombiens, puisque c'est celui de la drogue. qui consiste à dire, en fait, nous, on ne croit pas du tout une seconde à votre, au point 3 des accords selon lesquels on peut négocier ça avec les producteurs et faire une éradication manuelle concertée. Et ce qui compte, c'est qu'on vende toujours notre Roundup de Monsanto et qu'on en revienne aux bonnes vieilles méthodes qui, depuis 15 ans, d'ailleurs, ont fait la preuve de leur absolue inefficacité. Mais la pression est quand même forte parce que le poids des Américains en Colombie reste quand même très important. Donc je pense que pour quel que soit le nouveau président, c'est une situation qui est compliquée à gérer. Et le deuxième élément de complication régionale, c'est quand même la situation au Venezuela. Pas dans le sens où je ne crois pas qu'il y aura une interférence du Venezuela dans la situation, mais sur le fait que ce qui se passe au Venezuela, et là aussi avec Trump aux manettes aux États-Unis, c'est quelque chose qui peut, du jour au lendemain, un peu déborder. Moi, je trouve assez étonnant, enfin là, encore une fois, je m'exprime vraiment à titre personnel, de voir que les Américains réunissent des conclaves aux Nations Unies et où la situation vénézuélienne, avec, c'est vrai, un phénomène de migration ou de réfugiés dans les pays voisins comme une menace à la stabilité régionale, et que ça n'a jamais été évoqué pendant toutes les années du conflit colombien, où il y a quand même, c'était pas quelques dizaines de milliers de réfugiés, c'était quand même des millions de personnes qui ont dû quitter le pays à la suite du conflit, chassées par le conflit, chassées par les paramilitaires ou parfois par les guérillas. Et donc, toute détérioration de la situation au Venezuela, je crois, elle est porteuse de complications pour le processus de paix. Elle est déjà, d'ailleurs, c'est une ligne de fracture au sein même de l'Amérique latine. Un exemple très simple, l'Amérique latine n'a même pas été capable d'organiser le sommet Union européenne-Amérique latine qui devait avoir lieu à Salvador au mois d'octobre, parce qu'elle est divisée entre ceux qui sont partisans d'une solution plus radicale dans le traitement de la crise vénézuélienne et ceux qui, pour des raisons variées, sont plus bienveillants, disons, envers le régime en place en ce moment au Venezuela. Donc voilà, ça c'est le verre à moitié vide, mais je crois quand même que ce qu'il faut voir, et c'est peut-être aussi pour rebondir sur ce qu'a dit Michel Wieborka tout à l'heure, l'énorme pas en avant que représente la signature des accords avec les FARC et leur difficile mise en œuvre, c'est sans doute cette possibilité qui est ouverte, et c'est là-dessus qu'a conclu d'ailleurs Daniel, de réguler les conflits de la société colombienne de manière institutionnalisée. Alors, Michel a donné un certain nombre d'exemples de ça, mais je crois que c'est le principal apport. Et c'est sans doute aussi pour ça qu'une partie de la classe dirigeante colombienne était hostile aux accords, parce que si on met en œuvre les accords, il va falloir faire quand même quelques réformes. Il va donc falloir renoncer à certains privilèges, il va falloir un petit peu plus répartir la manne, il va falloir accepter qu'il y ait des syndicats. Il va falloir négocier avec ces syndicats-là. Il faut accepter qu'il y ait que la voie de résolution des conflits à la campagne ou avec les défenseurs de l'environnement, c'est pas d'assassiner les dirigeants populaires ou comme ça se passe quand même. Je crois qu'il y en a 150 quand même qui ont été assassinés depuis le 1er janvier de l'année dernière. C'est quand même pas une situation anodine. On peut pas considérer qu'on est sorti de la violence quand les conflits quand même se règlent de cette manière-là. Bon, mais la signature des accords ouvre la possibilité de régler désormais ces conflits-là, comme ça s'est passé dans d'autres pays d'Amérique du Sud, qui ont même sont même allés jusqu'à élire des gouvernements de gauche, sans que ça remette trop en cause quand même non plus les fondements de ces sociétés-là. Donc je crois que peut-être un jour, d'ailleurs, la Colombie, qui a toujours été un peu à contre-courant dans la région, sera peut-être un jour à contre-courant, puisque maintenant, ce sont des régimes de droite sont largement revenus au pouvoir en Amérique du Sud. Peut-être qu'un jour, on verra une évolution inverse en Colombie, ce qui serait, à mon avis, le signe que là, les choses se passent bien, c'est-à-dire cette capacité, finalement, à y compris organiser une alternance politique qui existe dans certaines régions, évidemment, mais qui, au plan national, est quand même encore quelque chose qu'on n'a jamais connu. Et je pense que ce sera sans doute le véritable test d'une maturité. Je crois que ça va prendre du temps, ça va être compliqué. L'année qui vient n'est pas facile, parce qu'avec cette élection présidentielle, évidemment, elle ne fait que polariser les positions. Ce n'est pas un moment favorable pour trouver des arrangements. J'espère aussi que la communauté internationale, une fois le moment d'euphorie passé, parce que les amis, c'est surtout quand ils commencent à avoir des difficultés qu'il vaut mieux être à leur côté, parce que quand tout va bien, finalement, c'est assez facile. Donc j'espère que les Nations Unies, qui finalement sont arrivées là sans avoir œuvré avant, puisque le travail a été fait uniquement par des Colombiens, auront aussi la capacité d'accompagner le processus jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, ça veut dire sans doute au moins 10-15 ans, puisque rien que le processus de justice transitionnelle, il est calqué sur cette durée-là. Mais je pense aussi, alors c'est un hommage puisqu'il n'est pas là, mais au père Francisco de Roux, qui avait été fait officier de la Légion d'honneur lors de la visite de Manuel Valls, qui avait donné lieu à la signature de l'accord sur l'observatoire de sortie de la violence. Je pense que même si les choses sont sans doute plus compliquées sur le plan, disons, judiciaire avec la justice transitionnelle, cette commission de la vérité, enfin, et là on peut s'appuyer sur d'autres expériences historiques dans d'autres pays, surtout si elle est entre les mains d'hommes comme Francisco de Roux, je crois que c'est quelque chose qui peut être réellement un élément très positif pour aller vers une réconciliation de la société colombienne avec elle-même. Donc j'ai démarré sur une note que peut-être certains d'entre vous peuvent trouver un peu pessimiste, mais bon, moi je reste quant au fond, mais dans la durée, mais bon, dans la durée, on est tous morts. Hein. Je pense que les choses vont dans le bon sens et que cette expérience colombienne, effectivement, pour tous ceux qui réfléchissent à comment, comme disait Michel, prévenir et sortir de la violence, est effectivement aujourd'hui particulièrement intéressante. Et je crois qu'on peut être aussi admiratif pour tous ceux, à commencer par le président Santos et puis ses principaux négociateurs, parce que très honnêtement, il a fallu beaucoup de ténacité, c'est pratiquement 6 ans d'efforts, et certains y ont consacré leur vie personnelle pendant 6 ans, et moi j'espère sincèrement pour eux que tout ça va produire le maximum de résultats qu'eux-mêmes espéraient. Thank you.